contempler la majesté de l'Éternel. Le Seigneur, dans son grand amour, continue de contempler le Seigneur. Est-ce que tu remarques sa splendeur? Est-ce que tu remarques sa grandeur? Plus que tout ce qu'il y a sur la terre. Est-ce que tu réalises la profondeur de son amour pour ta vie? Est-ce que tu réalises sa puissance à assujettir toutes choses pour la gloire de son nom? Contemple sa sainteté. La Bible dit qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il y a le Dieu qui reste identique à lui-même. Dis-lui merci pour la grâce qu'il t'a faite d'être ici ce soir, pour cet autre moment dans sa présence, cet autre moment dans l'intimité avec lui. Dis-lui Seigneur, règne, règne en ce moment. Règne Seigneur, règne dans nos cœurs. Règne Seigneur en maître absolu pendant ce moment. Dis-lui Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je le dispose pour que tu y mettes ta parole qui va porter des fruits. Je me laisse entièrement entre tes mains, afin que ta parole brise toute résistance en moi. Et me façonne à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, tu règnes en majesté, tu es élevé en dignité, et ce soir encore nos cœurs te célèbrent et te disent gloire, honneur et louange à toi, toi qui n'as pas changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, toi qui demeures fidèle, fidèle dans tes voies, fidèle dans tes promesses, fidèle dans ton amour. Seigneur, ce soir, c'est toi que nous célébrons encore et te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que nos cœurs sont disposés à être transformés, Seigneur, par toi. Seigneur, saisis-toi de ce moment. Saisis-toi de moi, Seigneur, afin que je ne parle pas par moi-même, mais que ce soit sous la conduite de ton esprit que je parle pour répondre, Père éternel, aux préoccupations de ton peuple que tu as rassemblé ici. Qu'ils repartent, Père éternel, notre Dieu, comblés par la parole que tu vas leur adresser. Qu'ils repartent, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, restaurés dans leur identité avec toi, dans leur identité en Christ, par la parole que tu vas leur adresser. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, je vous en prie.
J'ai l'impression que la salle est un peu obscure. Est-ce qu'on peut allumer les autres lampes là pour qu'elles soient un peu plus éclairées? Voilà. Bonsoir à tout le monde. Qui est prêt pour le marathon?
Il y en a qui ne sont pas encore prêts, n'est-ce pas? Ok. De toutes les façons, on va démarrer. On a la ligne de départ, n'est-ce pas? Ave Maria, n'est-ce pas? On va dire prêt et on va partir tout à l'heure pour le marathon de ce mois d'octobre.
La vie chrétienne dans la Bible est comparée à une course. Et qui dit course parle d'un certain nombre de choses, parmi lesquelles la préparation de la course. Vous savez qu'on ne se lève pas un bon matin et on commence avec le marathon, n'est-ce pas?
On prend la peine de préparer ce marathon. On s'entraîne à faire le marathon. Donc il y a la question de la préparation. Il y a le départ de la course qui se donne à la ligne de départ. Il y a un ensemble de règles qu'il faut respecter pour faire une bonne course et prétendre recevoir le prix à la fin de la course. Il y a également la ligne d'arrivée où toutes les personnes qui sont en train de concourir doivent s'arrêter. Et après la ligne d'arrivée, il y a les récompenses où les meilleurs de la course montent sur le podium, n'est-ce pas? Maintenant, on leur donne des récompenses, on donne les médailles, on donne les trophées.
La préparation à la course, c'est tout ce qui s'est passé avant votre conversion. Quelqu'un vous a prêché l'évangile. Quelqu'un a prié pour vous. Quelqu'un vous a mis la pression en dénonçant votre mauvaise vie. Cela pourrait être aussi les circonstances difficiles de votre vie qui vous ont poussé à chercher la face de Dieu, n'est-ce pas? Et vous ont amené jusque dans la présence de Dieu. C'est ça en fait la préparation de la course. Le départ de la course, c'est la croix de Jésus. C'est cette croix qui est la ligne de départ. Et c'est là-bas que toute chose commence. Lorsque nous acceptons de mourir au péché et de ressusciter avec Christ, nous prenons un départ pour une vie chrétienne qui va se poursuivre. Pendant longtemps, on a fait croire aux chrétiens que, on a fait croire aux gens, autant pour moi, que devenir chrétien, c'était recevoir le baptême. On a mis de côté l'œuvre de Christ à la croix, n'est-ce pas? Et beaucoup de personnes, malheureusement, sont dans les... mais ne sont pas chrétiens. Beaucoup de personnes sont dans l'église chaque jour, mais n'ont jamais entamé une histoire avec le Seigneur. Ils ne sont même pas dans la course. Ils sont dans les gradins, n'est-ce pas? Ils voient les autres courir. Ou alors ils sont même à côté de ceux qui sont en train de compétir, mais ils ne sont pas de ceux qui prétendent obtenir un prix à la fin. Pourquoi? Parce que ils ne sont même pas à la ligne de départ. Et on comprend pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église qui ont même reçu les baptêmes,
mais qui vont finir en enfer, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes qui risquent de finir en enfer parce qu'il n'y a pas cette ligne de départ qu'ils ont pris avec le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, ce n'est pas moi.
Tu as pris le bon départ, n'est-ce pas? Il y a un ensemble de règles qui sont prescrites dans la parole de Dieu, décrivant notre attitude
pour pouvoir remporter la course. Et donnant également des astuces pour pouvoir surmonter les obstacles quand ils arriveraient dans notre marche avec le Seigneur. Il y a la ligne d'arrivée, c'est l'éternité auprès de Dieu. C'est là-bas qu'il y aura le repos. Et c'est à la fin de cette course qu'on aura le rafraîchissement nécessaire pour refaire nos forces. Et par la suite, il y a la récompense. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les médailles que le Seigneur a préparées pour nous, particulièrement la couronne de vie. Mais je voudrais d'emblée préciser ici que la récompense dont il est question n'est pas le salut. Sinon, il devient un mérite, n'est-ce pas? Et je voudrais que quelqu'un nous ouvre le texte de Jean 10, les versets 27 à 29. Jean 10, les versets 27 à 29. Amen. C'est Jésus qui parle ici. Il s'adresse à ses disciples, n'est-ce pas? Et aux Juifs qui étaient également présents. Il leur dit quoi? Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Elles me suivent. Cette première phrase nous dit clairement comment est-ce qu'on prend le départ avec le Seigneur. Il faut entendre sa voix. Il faut être reconnu par le Seigneur Jésus. Ensuite, il faut suivre Jésus. Entendre la voix de Jésus, être reconnu par le Seigneur. Parce qu'on ne se déclare pas chrétien, mais c'est Christ qui atteste en nous le fait que nous sommes chrétiens. On se comprend? C'est pour cela qu'il faut sa reconnaissance, qu'il nous reconnaisse comme étant ses brebis et ensuite que nous nous mettions à sa suite. Il y a une chose que le Seigneur fait. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle, c'est un don que Dieu nous fait. C'est un don. La vie éternelle est un don. Ce n'est donc pas un mérite. Et elles ne périront jamais. Ça veut dire que dès l'instant où le Seigneur nous a fait le don de sa vie, de la vie éternelle, nous ne périssons plus jamais. Rien ne peut nous arracher de sa main, et rien ne peut non plus de la main de Christ, et rien ni personne ne peut nous arracher de la main du Père. Ça veut dire que lorsque nous avons reçu la vie de Dieu, nous sommes comme en sécurité entre les mains du Père et entre les mains du Fils. Ouvrons un autre texte. 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15.
au travers du feu. C'est bon, amen. Voilà.
Le verset 11 nous dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir
Jésus-Christ. C'est le fondement qui a été posé pour bâtir une vie chrétienne qui soit solide et qui réponde aux standards de Dieu. Il n'y a pas un autre fondement qui soit posé en dehors de celui de Jésus-Christ.
Et si ce fondement est posé, maintenant nous sommes appelés à bâtir sur ce fondement.
Et c'est ce que la Bible appelle nos œuvres. Maintenant, dépendamment du matériau qu'on va utiliser pour bâtir, dépendra aussi la récompense que nous allons obtenir. On se comprend? Parce que l'œuvre que nous aurons bâtie sur le fondement qu'est Jésus-Christ sera éprouvée un jour, sera éprouvée par le feu. Maintenant, si vous avez bâti sur le fondement qu'est Jésus-Christ avec le bois, lorsque le feu va passer sur votre œuvre, il se ne pas subsister, n'est-ce pas? Et vous n'aurez pas de récompense. Et la récompense ici, comme je le dis et je le précise, à dessein, ce n'est pas le salut. On se comprend? Le salut n'est pas une récompense. Mais il y a d'autres choses qui sont des récompenses que le Seigneur nous accorde, dépendamment de nos œuvres. C'est pour cela qu'Apocalypse 13, verset 14, va dire que heureux les morts en Christ, car leurs œuvres les accompagnent. Leurs œuvres les accompagnent. Mais le salut, c'est un don que Dieu nous fait. Ce n'est pas un mérite.
Nous comprenons très clairement que dans la course où nous sommes engagés, il y a beaucoup de choses que nous devons prendre très au sérieux dans notre marche avec le Seigneur.
Quoi le premier thème que nous abordons ce soir? C'est une course.
C'est une... Notre vie est une course. Notre marche avec le Seigneur est une course. Chaque jour est un pas que nous faisons dans notre voyage sur la terre. Et il est important de comprendre ces choses afin de prendre un bon départ pour notre marche avec le Seigneur ou bien dans cette course. Mais nous allons nous rendre compte qu'il y a un certain nombre de raisons qui justifient le fait que certains chrétiens ne grandissent pas spirituellement. Nous allons voir quelques-unes de ces raisons. La Bible nous enseigne que toutes les personnes qui ont reçu Christ doivent être à son image par leur conduite, leurs pensées et leurs sentiments. En d'autres termes, c'est vivre comme Jésus.
Ses priorités deviennent nos priorités. Ses intérêts deviennent nos intérêts. Parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons désormais pour Christ. Nous vivons désormais pour satisfaire ses intérêts à lui, non plus les nôtres. Autrement dit, nous mourons en nous-mêmes et nous laissons Christ vivre au travers de nous. Mais est-ce que lorsqu'on regarde la vie des chrétiens, elle reflète véritablement la vie de ceux qui sont morts en eux-mêmes et qui laissent Christ vivre au travers eux?
Pourquoi est-ce que certaines personnes ne connaissent pas une croissance dans leur marche avec le Seigneur?
Je vais encore poser une question que j'ai souvent posée ici, mais je ne veux pas que vous répondiez à haute voix. Vous avez quel âge dans la foi? Chacun peut répondre intérieurement, n'est-ce pas?
Maintenant, si vous regardez l'âge que vous avez dans la foi, est-ce que votre comportement et votre conduite aujourd'hui reflètent l'âge que vous avez dans la foi?
Ça veut dire qu'il y a un problème de croissance, n'est-ce pas? Pour ceux qui peuvent avoir 10 ans dans la foi, mais ils ont l'impression qu'ils sont encore comme des gens qui ont 2 ans.
Il y a un problème de croissance. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce problème de croissance? Donc on voit un certain nombre de choses qui peuvent empêcher les chrétiens de croître. Si Dieu veut que nous soyons à l'image de Christ, que nous vivions comme Christ, c'est l'idéal. C'est ce à quoi ce que nous devons aspirer. Mais il y a un nombre de choses qui peuvent t'attendre et nous empêcher d'être comme Christ. Et ma prière, c'est qu'au sorti de ce moment, ce soir, que chacun puisse voir quel est son niveau et prenne la résolution de travailler à ressembler à Christ chaque jour, à rattraper le retard de croissance qu'il avait. On se comprend? La première chose, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont jamais été régénérées. Il y a des personnes qui n'ont jamais été régénérées. Ce sont des gens qui sont à l'église chaque jour, tous les dimanches, mais qui refusent le brisement de Dieu. Ce sont encore les religieux, ou pour dire les choses autrement, les chrétiens tortues. Vous savez ce que la tortue fait lorsque quelque chose s'approche d'elle, n'est-ce pas? Elle fait comment? Elle rentre dans sa carapace, n'est-ce pas? Et quel que soit ce que vous allez faire là, elle reste dans sa carapace. Il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent comme ça. Beaucoup de gens qui viennent à l'église qui se comportent comme ça. Rien ne les atteint. On les appelle encore les chrétiens canards. Faites ce que vous voulez, mais rien ne les atteint en profondeur. Tout reste sur la surface. C'est ce genre de personnes, malgré la prédication, malgré les messages qu'ils peuvent recevoir, malgré les interpellations, ils restent identiques à eux. Ils ne changent pas. Leur cœur est endurci et fermé à la parole de Dieu. Ils deviennent comme insensibles à cette parole parce qu'ils trouvent toujours des raisons pour justifier pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ci ou ça. Ils ne sont pas régénérés. Ils n'ont jamais fait la rencontre de Christ et leur vie reste stagnante. Ce sont ceux-là qui vont vous citer les noms des pasteurs qu'ils côtoient et vous présenter les portraits qu'ils ont avec les pasteurs affichés sur leur mur, n'est-ce pas? Et vous dire comment est-ce qu'ils ont été baptisés par les blancs. Vous dire comment est-ce qu'en créant l'église de Tamja, ce sont eux qui étaient les pionniers, qui ont travaillé pour la construction de la communauté. Ils ont fait tout ça, mais en réalité, leur vie n'a jamais changé. Ils sont restés les mêmes personnes. Ce sont les non-régénérés qui sont à l'église d'une manière permanente. Cette catégorie de personnes a besoin de la nouvelle naissance, de passer par la croix de Christ. C'est là qu'on prend le départ de la course. Et je voudrais dire à quelqu'un qui était encore dans cette logique-là, tant que tu ne brises pas cette manière de penser, de voir les choses, tu ne peux pas grandir spirituellement. Tant que tu te suffis, tu te contentes de la position que tu as, tu ne peux pas grandir spirituellement. Il faut que tu laisses que la parole te brise et que tu acceptes de laisser Christ régner dans ta vie pour commencer véritablement une vie avec le Seigneur. Sans ça, tu ne vis pas. Tu es mort vivant. N'est-ce pas? Tu es mort vivant. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui ne se nourrissent pas spirituellement. Ils ont reçu l'évangile, ils ont même cru, mais ils ne grandissent pas. Ce sont les gens qui n'ont pas le temps pour lire la parole de Dieu ni prier. Ils ont des réactions tellement charnelles que parfois on a du mal à croire qu'ils ont cru. On a du mal à croire qu'ils ont cru. Ils ne se nourrissent pas. Vous savez, les mamans, quand on accouche un enfant et qu'on ne le nourrit pas bien, qu'est-ce qui se passe? Il attrape le kwashiorkor, n'est-ce pas? Et sur le plan de la croissance, il ne grandit pas, il reste nain, n'est-ce pas? Et vous savez que les personnes qui ne croissent pas spirituellement, qui refusent de s'alimenter, sont des personnes qui causent trop de problèmes dans l'église. Ils causent trop de problèmes dans l'église. Ben, ce sont des gens qui sont tout le temps en train de murmurer. Est-ce qu'ils ont pris le temps de lire la parole de Dieu pour sonder ce que disent les Saintes Écritures? Non. Mais ils murmurent.
Ils n'ont jamais le temps de participer à des programmes comme ceux-ci. Ce sont des gens toujours super occupés.
Et considère ceux qui sont là comme vous, comme étant les gens qui n'ont rien à faire, n'est-ce pas? Qui n'ont rien à faire. Ils n'ont jamais le temps pour venir s'asseoir, apprendre apprendre la parole de Dieu.
Ce sont des personnes qui préfèrent jouer au damier au quartier et regarder les matchs à la télévision que d'être à un moment comme celui-ci.
Et ils sont nombreux. En rentrant tout à l'heure, vous allez les voir assis au bar, n'est-ce pas?
Ils ne veulent pas grandir spirituellement. Ils ne font aucun effort pour se nourrir. Ils ne font aucun effort pour croître dans leur relation avec Dieu. Ils ne se nourrissent pas. Je vais reconnaître aussi que beaucoup se trouvent dans cette situation à cause des pasteurs
qui n'enseignent pas la vérité de la Bible aux hommes. Un pasteur qui va au funérail, ça va de soi qu'il va encourager ses fidèles à aller aussi au... N'est-ce pas? On n'a pas enseigné la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'évangile est tronqué. Et les gens enseignent beaucoup plus le miracle qu'ils n'enseignent la parole. On a souvent entendu les gens dire, Dieu m'a dit que celui qui apporte 100 000 là maintenant, ici devant, reçoit la double portion, n'est-ce pas, de la bénédiction. Est-ce que c'est ça l'évangile? Du coup, on a détourné l'attention des gens de la parole pour focaliser ces personnes sur le matériel, sur les richesses, sur l'argent. Quelqu'un tant qu'il va recevoir la double portion, même s'il faut prêter sur le voisin, il prête, n'est-ce pas? Pour recevoir cette portion, c'est l'évangile qu'on a dilué. Mais nous avons la grâce ici, et les gens nous envient. Même certaines personnes ne veulent pas oser avoir des moments d'édification comme ceux-ci. Les gens nous envient. Ils ont envie de faire chez eux, mais ils ont même peur. Mais vous avez la grâce d'avoir ces moments d'édification. C'est l'occasion de profiter pour vous ressourcer davantage, pour refaire vos forces spirituelles.
Il y a également des personnes qui ne veulent pas fournir d'efforts.
Ils n'accordent pas l'importance qu'il faut à leur croissance. Ils ne prient pas, ne lisent pas leur Bible pour la méditer de façon régulière. Ils ont une vie de foi en dents de scie. Il y a une image là. Vous voyez cette image? L'image en bleu. Il y a des chrétiens qui fonctionnent comme les dents de scie, n'est-ce pas? Regardez, quand vous êtes un chrétien qui a une vie en dents de scie, vous passez tout le temps à tomber, à vous relever, n'est-ce pas? Et vous n'avancez pas véritablement dans votre marche avec le Seigneur.
Vous faites un pas, vous rétrogradez et vous revenez après. Ainsi de suite. La même distance que vous faites avec celui qui allait d'une manière progressive, en un seul trait, vous mettez plus de temps à atteindre le même but que cette personne-là. Parce qu'à chaque fois, il faut recommencer ce nombre de choses dans votre vie. Il y a beaucoup de personnes également qui fonctionnent comme ça, qui ont une vie de foi véritablement en dents de scie. Il n'y a pas une croissance véritable dans leur marche avec le Seigneur. Il y a comme des moments d'interruption. Des moments où ils sont corrects avec Dieu. Ils prient, ils méditent la parole de Dieu. Des moments où ils mettent ça de côté, n'est-ce pas? Qui se reconnaît là-dedans? Dieu veut des personnes véritablement engagées pour sa gloire. Ces chrétiens qui ne font pas d'efforts oublient une chose. C'est que dans la marche avec le Seigneur, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à votre place. On peut vous prêcher l'évangile, mais on ne peut pas accepter Christ à votre place. On peut vous donner une Bible, mais on ne peut pas la lire à votre place. On peut vous enseigner à prier, mais on ne peut pas prier à votre place. Il y a des choses que vous devez faire. On ne peut pas. Même si la personne vous aime, elle ne peut pas faire cette chose à votre place. Vous devez la faire vous-même. Il est question donc qu'on sorte de cette paresse-là. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, le verset 27 dit, pour ce qui le concerne lui, « Mais moi je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Il traite durement son corps. Autrement dit, il se donne une certaine discipline de vie. Quelle est la discipline de vie que vous avez dans votre marche avec le Seigneur chaque jour? Est-ce que vous avez une discipline de vie? Et vous êtes donné une certaine méthode dans votre manière d'être, dans votre manière de vivre votre foi. Devenir mature n'arrive pas au hasard. Il y a un travail qu'il faut faire. Il faut qu'on s'investisse dans ce travail-là. Il faut qu'on s'investisse à faire ce travail. Il y a donc un effort que chacun doit fournir. Et dans 1 Pierre 1, le verset 5 à 8, il nous est dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, à la science, la tempérance, la patience, et ainsi de suite. Il y a des efforts qu'il faut faire. Chaque jour, il y a des choses auxquelles vous devez renoncer. Même si ces choses-là sont difficiles à renoncer, vous devez pouvoir le faire. C'est un sacrifice. Il n'y a pas de marche avec le Seigneur sans sacrifice. Il n'y a pas d'engagement à servir le Seigneur sans consentir à un sacrifice. Et tu peux rester dans ce que tu as, bien dans tes positions, et espérer grandir sur le plan spirituel, tu ne le feras pas. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire. Et il faut le faire pour pouvoir grandir véritablement dans la communion avec le Seigneur. L'autre catégorie, ce sont des personnes qui ont rétrogradé. Ce sont ceux qui ont connu l'évangile, ont été remplis de la puissance de Dieu, ont fait de grandes choses avec Dieu, mais qui aujourd'hui ont pris la retraite anticipée. N'est-ce pas? Ils ont pris la retraite anticipée. Ils parlent aujourd'hui de leurs espoirs dans la foi au passé. Hier nous étions, hier nous avons fait ci. Quand nous étions encore, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ils conjuguent maintenant leur foi au passé. Et beaucoup sont dans l'église comme ça, les anciens combattants, n'est-ce pas? Pourtant ils sont encore vivants, mais ils ont pris la retraite. Dieu n'a même pas encore sifflé la fin, mais ils ont pris leur retraite. Ils ont dit à Dieu que non, maintenant ma parole ça suffit et me repose.
Ils sont retournés, pour certains, à ce qu'ils ont vomi hier. Ça peut être aux funérailles. Ça peut être à la bière. Certains même sont devenus polygames.
N'est-ce pas? Pourtant, hier, ils avaient condamné ces choses-là. Ça, c'est quelqu'un qui a rétrogradé. Ce genre de personne ne peut pas grandir.
Et quand une personne a rétrogradé, c'est clair qu'il ne peut plus manifester le feu de Dieu dans sa vie. Il est devenu quelqu'un qui regarde les autres aujourd'hui et se croit au-dessus de ces personnes-là. Parce qu'il se dit que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est ce qu'eux, ils ont fait hier. Et quand vous avez déjà dit ça, ah, que ce que vous êtes en train de faire là, nous on a fait ça plus que vous hier. Hein? Quand vous dites, courez aussi comme ça, bien, vous allez vous fatiguer. N'est-ce pas? Oui, il y a ce genre de personnes dans l'église.
C'est pourquoi, quand vous avez goûté à la grâce de Dieu, quand vous avez goûté à la puissance de l'Esprit de Dieu dans votre vie, vous devez tenir bon jusqu'à la fin. C'est une course. Dis à ton voisin, c'est une course. Et à la course, il faut aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Tu t'arrêtes en chemin, tu perds la récompense. N'est-ce pas? Tu perds la récompense. Vous savez, quand on fait l'ascension du Mont Cameroun, à la ligne de départ, on donne les t-shirts à tous ceux qui vont concourir, n'est-ce pas? Avec les numéros. Parfois une bouteille d'eau. Chez certains, la seule chose qu'ils vont obtenir de la compétition, le t-shirt et la bouteille d'eau, c'est tout. Pourtant, Dieu a plus à nous donner. Pour ça, il faut aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Ne baissez pas les bras en chemin. C'est souvent dangereux. Quand on voit quelqu'un qui a fait de grandes choses et qui a rétrogradé. On a eu un de nos enseignants comme ça, qui lorsqu'il nous parlait de ce que le Seigneur l'a utilisé pour faire à l'époque, c'était extraordinaire. C'est l'un des pionniers de la communauté de Mélène et de Longtap, et même qui a fondé la communauté de Biémassi. À l'époque, quand il jouait simplement la guitare, les personnes étaient renversées par l'Esprit de Dieu. Et les démoniaques quittaient les personnes, les démons quittaient les personnes qui étaient possédées. Mais aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est une course. Et il faut bien finir. Arriver à la ligne d'arrivée. Ne baissez pas les bras en chemin. Il y a plein de choses qui peuvent chercher à vous décourager et vous empêcher d'atteindre la ligne d'arrivée. Mais ne regardez pas ces choses. Tenez fermement la main de Christ et continuez d'avancer. Tenez fermement la main du Seigneur Jésus et faites comment? Continuez d'avancer. Et parce que certaines personnes ont rétrogradé et veulent vous donner l'impression d'être au top de leur forme, deviennent de faux chrétiens, deviennent de faux frères. N'est-ce pas? Ils ont l'apparence des frères, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne le sont pas. C'est pour ça qu'il va avoir une attitude, un comportement à l'église et au quartier, avoir un autre comportement. Ce sont des gens qui ont rétrogradé.
des gens qui n'ont jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ, non régénérés. Ils sont comme des caméléons. Leur comportement varie en fonction du milieu dans lequel est-ce qu'ils se trouvent. Si le milieu des chrétiens prend la couleur blanche, n'est-ce pas? Dès qu'il arrive au monde, dans le monde, dans le milieu professionnel, il prend la couleur du milieu. Parce qu'il veut plaire à tout le monde. Il veut qu'on le voie d'un bon œil dans tous les milieux où il se trouve. Si tu vis par rapport à ce que les gens vont penser de toi, tu ne peux pas grandir avec le Seigneur. Tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. C'est ce que Dieu pense de ta vie. C'est ce que Dieu dit de toi qui est la chose la plus importante. C'est pour cela que tu dois regarder au standard de Dieu et non pas au standard des hommes. Jésus nous a fait cette promesse. Tu dois regarder à ce que Dieu attend de toi, non pas à ce que les hommes attendent de toi.
Je vous enverrai l'esprit de vérité, l'esprit de consolation.
Il est donc question pour nous ce soir de voir ces différents aspects et que chacun puisse rentrer en lui-même pour voir si véritablement dans sa marche avec le Seigneur, il est en train de grandir ou il est en train de rétrograder. Il y en a qui ont commencé la pente de la marche arrière, n'est-ce pas? Il est question de s'arrêter et de recommencer à avancer. Et s'il y a des personnes qui jamais n'ont fait la rencontre du Seigneur, que véritablement ils prennent la ferme résolution de se lever et d'avancer désormais. Laisse toutes les choses qui t'embrigadent là maintenant. Tu sembles être épanoui en ce moment, mais je peux te garantir une chose, le véritable bonheur ne peut venir que de Dieu. Les choses qui te procurent le plaisir maintenant là, ce sont des choses qui sont éphémères. Et qui peuvent te quitter d'un moment à l'autre. Mais la présence de Dieu est une présence qui est éternelle. Dieu ne peut jamais nous quitter. Et sa présence vaut mieux que tout ce que nous pouvons avoir. Cherche cette présence. Cherche cette présence de Dieu chaque jour de ta vie. Cherche chaque jour à ressembler à Christ, à être comme lui. Je dois ta prière aujourd'hui. Seigneur, donne-moi de ressembler à Christ dans toute ma conduite. Dans ma vie de chaque jour, je veux ressembler à Christ. Je voudrais terminer avec la conclusion qu'il y a dans le livre. La véritable vie chrétienne, c'est une relation durable avec le Sauveur. Jésus-Christ, qui doit nous transformer en hommes et femmes pleins de la vie de Dieu. La véritable vie chrétienne nous mènera toujours à une transformation profonde de nos vies. Dire que vous êtes chrétien et vivre comme un non-croyant est contraire à l'essence même de la chrétienté. On se comprend? Dire que vous êtes chrétien et vivre le contraire des choses, vivre comme un non-croyant, c'est contraire à l'éthique, bien à la valeur que le Seigneur attend de nous en tant que chrétien. Je voudrais que chacun de nous puisse s'examiner au sortir d'ici. Pendant qu'il est en train de commencer cette course, ce marathon, puisse voir à quel niveau est-ce qu'il se trouve. Et se rajuste pour qu'à la fin, ce que Dieu a prévu de faire dans nos vies pendant cette saison, qu'il reçoive sa portion. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier.
Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. comptez sur lui de rendre heureux. Tant que tu veux le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui de l'âme. Tant que tu veux le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là.
Bien-aimé, je voudrais que tu rendes grâce au Seigneur pour l'occasion qu'il t'accorde de revoir ta relation avec lui. C'est parce que Dieu nous aime qu'il peut nous parler de notre relation avec lui et mettre le doigt sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne va pas. Dis-lui merci Seigneur pour l'amour qu'il a à ton endroit. Dis-lui merci parce qu'il voit que tu es dans l'erreur. Je t'ai éloigné de sa présence et il t'a ramené à lui. Dis-lui merci pour cet amour qu'il a pour toi. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a mis en œuvre pour que tu sois à la statue parfaite de Christ. Dis-lui merci pour son Saint-Esprit qui est disponible. Dis-lui merci pour le sacrifice que Christ a consenti à la croix. Lui qui était innocent, il a pris sur lui nos péchés. Il est devenu injuste à cause de nous. Bien-aimé, je voudrais maintenant que tu puisses t'examiner. À quelle catégorie de personnes est-ce que tu appartiens? Ou alors, qu'est-ce qui t'empêche de croître véritablement dans ta relation avec le Seigneur? Est-ce le fait que tu ne sois pas régénéré? Dieu Seigneur, je veux saisir ta main ce soir. Seigneur, je refuse de continuer d'avoir un cœur endurci, insensible à ta parole. Je laisse, Seigneur, que ce cœur soit brisé maintenant par ta parole, afin qu'elle transforme mon existence. Bien-aimé, supplie le Seigneur de briser l'incrédulité dans ta vie. De faire fléchir ton cœur à la parole de Dieu qui vivifie, qui transforme et qui régénère. Si tu es de ceux qui ne se nourrissent pas spirituellement, parce qu'ils n'ont jamais le temps de passer dans la présence de Dieu, dis-lui Seigneur aujourd'hui, je veux commencer à avoir soif et faim de ta parole. Parce que je sais, Seigneur, que c'est elle qui me communique la vie.
cette parole qui me communique ta volonté parfaite. Seigneur, je veux avoir fait. Crée en moi, Seigneur, cette soif chaque jour de garder mes regards fixés sur ta parole, de la méditer chaque jour, jour et nuit, et d'appliquer mon cœur à mettre cette parole en pratique. Si tu étais de ceux qui ne font aucun effort, Dieu Seigneur, que désormais tu veux travailler, faire ce qui te revient de droit, c'est faire ce qui est de ta responsabilité pour atteindre son standard. Dis-le-lui. Dis, je rejette la négligence dans ma vie. Je rejette la paresse. Je rejette la procrastination. Je choisis de faire les choses quand il faut les faire. Si tu es de ceux qui ont rétrogradé, c'est l'occasion maintenant de dire au Seigneur, Seigneur, relève-moi une fois pour toutes. Je reconnais que je suis retourné à ce que j'avais vomi, à la vie d'immoralité à laquelle j'avais renoncé. Je reconnais que je suis retourné au mensonge. Mais je me rends compte que je ne peux pas grandir, je ne peux pas te ressembler en restant dans cette position. Seigneur, ma main, saisis-la, Seigneur, et sors-moi de ce gouffre. Demande au Seigneur de t'embraser de son feu, de te remplir de sa puissance, de te remplir de son esprit qui chaque jour te donne de ressembler à Jésus. Lui seul te communique la nature de Dieu parce que c'est Dieu en toi. Dis au feu de Dieu de t'embraser. Dieu Seigneur, que tu veux te relever et continuer la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Proclame que tout obstacle sur ton chemin est détruit au nom de Jésus. Déclare que tout programme de Satan pour te faire rétrograder désormais est nul et sans effet au nom de Jésus. Proclame que le bonheur et la grâce t'accompagneront chaque jour. Donneront de persévérer jusqu'à la fin. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'écoute. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'exauce. Dis merci au Seigneur pour ce nouveau départ que tu prends avec lui.
Seigneur, merci pour les cœurs que tu as ramenés à toi, Seigneur, ce soir. Merci parce qu'à partir de ce soir, la vie de quelqu'un ne sera plus la même. Merci Seigneur parce que ce soir, tu as remis de l'ordre dans la vie de quelqu'un au travers de ta parole. Seigneur, merci parce que tu as saisi une main languissante qui s'est tendue vers toi pour dire, Seigneur, je reviens à toi. Je m'abandonne à nouveau à toi. Merci Seigneur pour cette vie que tu transformes. Mais Seigneur, pour cette personne que tu sors de la boue dans laquelle est-ce qu'elle était. Mais Seigneur, parce que tu la nettoies de ton sang. Et tu la façonnes, Père éternel, notre Dieu, chaque jour pour qu'elle te ressemble. Merci pour les blessures que tu guéris dans les cœurs. Merci pour les frustrations que tu ôtes dans les vies des personnes. Merci Seigneur pour les regards qui sont désormais tournés vers la croix pour regarder au modèle de Jésus-Christ jour après jour. Merci Seigneur pour ta puissance qui remplit les vies des personnes, qui les équipe, qui leur donne, Père éternel, notre Dieu, de marcher en nouveauté de vie. Merci infiniment, Seigneur, pour tout ce que tu as fait encore ce soir. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.